Bonjour, c'est Marie Lalande au micro d'Imagémo à voix haute, épisode du 26 novembre 2023. Pendant la prochaine heure, on rencontre et on parle avec des gens qui font et qui lisent la littérature jeunesse, des petits, des experts, à propos de sujets très variés. Aujourd'hui, en deuxième partie d'émission, dans les coulisses du livre, je reçois Delphine Copé, professionnelle spécialisée en littérature jeunesse, et on va parler notamment avec elle du programme intergénérationnel Lire et faire lire. Et comme d'habitude, on terminera l'émission avec les actualités rares. Mais d'abord, en première partie, à Dis-moi ce que tu lis, je reçois Julie Bouchard, qui enseigne à l'école Laurier Dubois à Saint-Lazare, et trois élèves de sa classe de deuxième année pour parler de fiction réaliste. Et on entendra une toute nouvelle chronique, Les tout petits livres, assurés par Céline Ruffiange. Encore une fois, tout plein de livres et de découvertes sur la littérature jeunesse.
Dis-moi ce que tu lis.
Dis-moi ce que tu lis, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui lisent des livres jeunesse. Aujourd'hui, on reçoit Julie Bouchard, qui enseigne à l'école Laurier Dubois à Saint-Lazare. C'est au centre de service scolaire des Trois-Lacs. Et on reçoit aussi quelques élèves de sa classe de deuxième année, Zoé Deschamps, Noémie Lecomte et Matt Robitaille. Bonjour à vous quatre et bienvenue à Images et mots à voix haute.
Bonjour!
Bonjour!
Julie, on va parler d'abord de votre école, de votre classe. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre milieu scolaire, Julie?
Je pourrais d'abord parler de Saint-Lazare. Saint-Lazare, c'est une belle petite ville à l'ouest de Montréal. C'est situé entre Vaudreuil-Dorion et l'Ontario.
Oh oui, donc c'est dans l'extrême ouest.
Complètement. Ouais. Ensuite, c'est une école de premier cycle et de maternelle seulement. Donc, on a 6 classes de maternelle, 4 classes de première année et 4 classes de deuxième année. Ça fait beaucoup de petits mondes, de petits humains.
Oui.
C'est un milieu assez favorisé. Puis, je pourrais aussi dire que c'est un milieu où est-ce qu'on a plusieurs familles anglophones ou bilingues. Donc, pour plusieurs de mes élèves, le français, c'est pas la première langue, c'est la deuxième langue. Ah. Et en plus, on a de plus en plus d'élèves allophones qui intègrent notre milieu.
OK.
Donc, moi, ça fait 18 ans que j'enseigne à l'école ici, puis je me sens vraiment privilégiée d'être ici parce que c'est un milieu scolaire hyper positif. Toutes les personnes qui y travaillent sont impliquées avec les enfants. Et en plus, depuis 15 ans, on a fait le choix d'enseigner sans manuel et d'enseigner seulement avec la littérature jeunesse, les livres, le papier et le crayon.
Ça, c'est assez particulier et c'est formidable. Je le souligne. Donc, vous le disiez, il y a plusieurs, un choix d'école. Les enseignants de votre école abordent la lecture et l'écriture avec l'approche des ateliers. J'aimerais ça que vous nous disiez ce que c'est puis pourquoi vous avez fait ce choix-là.
Bien, cette approche pédagogique-là, ça a été d'abord élaboré par Lucy Calkins et son équipe au Teachers College de New York.
Oui.
Nous, on a adhéré à ça pour plein de raisons. C'est une approche qui, d'abord, nous permet d'enseigner la lecture et l'écriture en utilisant les livres de littérature jeunesse. Donc, on était déjà impliqués avec les livres de littérature jeunesse. Mm-hmm. Et ça se base sur des pratiques qui sont reconnues efficaces en enseignement. En plus, on enseigne, dans le fond, différents modules selon un genre de texte. Donc, narratif, informatif, opinion.
Ouais.
Ça dure à peu près de 6 à 8 semaines. Puis, à chaque semaine, on va faire environ 4 périodes de lecture, 4 périodes d'écriture avec les enfants. Puis, cette façon d'enseigner-là, elle permet aussi de donner envie de lire et d'envie d'écrire aux enfants. Ça leur permet de travailler avec des partenaires, de discuter. Ça leur permet aussi de les rendre autonomes. Puis moi, ce que ça me permet, c'est d'enseigner, de différencier avec mes élèves.
Oui, oui, tout le monde ne fait pas la même chose. En même temps, c'est ça qui est intéressant.
Oui, exactement.
Moi, je trouve que c'est intéressant de remettre les pendules à l'heure aussi par rapport à cette approche-là, qu'on entend toutes sortes d'affaires à propos de ça. Et ce que j'aime, moi, c'est que c'est vraiment centré sur l'authenticité des situations, vraiment de la vraie vie. C'est génial. Parmi les différents modules que vous proposez aux enfants, celui que vous venez juste de travailler, c'est celui où vous leur présentez aux enfants des livres de fiction réaliste. J'aimerais que, on va demander aux enfants de nous expliquer qu'est-ce que c'est ce genre de livre. Alors, qu'est-ce qui veut commencer pour nous dire qu'est-ce que c'est ça de la fiction réaliste? Allons-y avec Matt, tiens, tout d'abord.
De la fiction réaliste, c'est un livre qui raconte une histoire qui est vraie et ça peut se passer pour vrai.
Ah,
Et tout
ouais.
est toujours vrai.
Tout ce qui se passe dans une histoire de fiction réaliste, c'est basé sur la vraie vie, la réalité. C'est vrai.
Exact.
Exact. OK. Zoé, tu voulais ajouter quelque chose?
Moi, j'aime beaucoup la fiction réaliste parce que ça apprend des choses, ça nous dit des affaires, puis ça peut déjà nous arriver à nous
C'est
aussi.
ça, c'est ça. De la fiction réaliste, c'est des choses qui, de la fiction, c'est une histoire inventée, mais qui peut nous arriver à nous. Ah! Donc, vous en avez lu, Julie, vous en a lu de ces livres avec des histoires possibles dans la vraie vie. Est-ce qu'il y en a une en particulier que vous avez beaucoup aimée et dont vous voudriez nous parler? Tiens, commençons avec Zoé pendant qu'on est là, puis après ça, on ira voir les autres.
Toi, c'est la ruelle.
La ruelle, ouais. Puis, c'est écrit par qui, ça, la ruelle?
Céline Comtois.
Ouais. Puis, qui a fait les illustrations?
Geneviève Despère.
Geneviève
Despré.
Després, oui, c'est ça. Puis, qu'est-ce que ça raconte, l'histoire de la ruelle? Qu'est-ce qui se passe dans ce livre-là?
Son père, Pierre,
La petite fille qui est dans l'histoire avec son père, oui, qu'est-ce qui leur arrive?
je m'en rappelle plus vraiment, peut-être.
Tu t'en souviens pas, hein? Moi, je me souviens quand je l'ai lu, ce livre-là, je l'ai beaucoup aimé. Elle se promène, hein, dans la ruelle, elle voit plein de choses, hein? Qui se passe dans la ruelle, la petite fille?
Elle voit des oiseaux, puis à un moment donné, ça dit cric-crac.
Ah oui, il y a toutes sortes de bruits, hein, c'est ça. Puis est-ce qu'elle rencontre quelqu'un à la fin?
Oui.
Ah oui, elle se fait une amie, hein, qui est très drôle. Ça marche. Merci Zoé pour ta suggestion.
Aussi,
Oui.
il faut plein de grimaces.
Ouais, c'est pour ça que c'est drôle. Ça marche. On va aller voir Matt, tiens. Matt, tu voulais nous parler de quel livre, toi, que tu as aimé, un
Les
livre?
histoires de Raffi.
Les histoires de Raffi, qui a écrit ça?
Par Abby Alone.
D'accord. Et puis, ça raconte quoi, les histoires de Raffi, Matt?
Ça raconte que le garçon Raffi
Moi?
a un t-shirt noir et blanc rayé.
Oh, c'est intéressant,
C'est
tu nous le
un garçon
décris.
comme tous les autres, mais il n'arrive pas à trouver des histoires, parce que sa maîtresse dit toujours, les histoires sont partout, les histoires sont partout. Mais il réussit jamais à en trouver, jusqu'à un moment qu'il demande à Lily Rose, celle qui est à côté de lui,
Ouais.
de dire qu'est-ce qu'il peut y arriver. Elle a 13 histoires sur Raffi, à cause qu'il y avait plein d'affaires. Puis souvent, Raffi, il trouvait des excuses pour pas et pas pendant la période d'écriture,
Ouais.
jusqu'à temps qu'il trouve une histoire, c'est la chenille puis le bébé.
Puis donc, c'est une histoire qui lui est déjà arrivée à lui aussi. Mais
Exact.
pourquoi ce livre-là, t'as aimé beaucoup ça, toi, Matt?
Parce que moi aussi, ça m'arrive d'avoir plus d'idées pour écrire, mais j'ai plus
Exactement
d'idées.
comme Raffi, hein? La même chose. Ah, puis toi, Noémie, qu'est-ce que tu voulais nous suggérer? Toi, qu'est-ce que tu as aimé comme livre de fiction réaliste?
Ma vie heureuse.
Ma vie heureuse. Qui a écrit ça?
Rose Lagercrans.
Oh mon Dieu, hey, t'es bonne, hein, si tu le dis bien, parce que c'est pas un nom qui est facile à prononcer. Et qu'est-ce que ça raconte, cette histoire-là?
C'est que June est toute seule, puis le premier jour d'école dans son école élémentaire. Puis là, après ça, elle rencontre sa nouvelle amie, Ella Frida. Puis après ça, ils deviennent amis. Mais un jour, Ella Frida déménage. Là, elle est très triste. Puis là, elle est triste pendant tous les jours d'école.
Ah oh, oui, donc c'est sa vie à elle, ce
Oui.
personnage-là qu'on suit. C'est bien, merci pour la suggestion, Noémie. Julie, je reviens à vous. Vos élèves ont aussi écrit, en s'inspirant des livres qu'ils ont lus et que vous leur avez lus, ils ont écrit des récits de fiction réaliste à leur tour. Vous leur aviez demandé quoi?
Bien, pendant tout le module, dans le fond, moi, je leur ai enseigné des façons de trouver des idées, comment planifier une histoire de fiction réaliste. Ensuite, je leur ai enseigné comment la rendre plus vivante, comment utiliser des techniques d'auteur. On a appris des techniques de révision d'histoire, pour comment la corriger. Puis, ils avaient à choisir un personnage qui était un garçon ou une fille, ils pouvaient choisir le sexe qu'ils voulaient, mais ils devaient avoir leur âge pour pouvoir inventer des histoires qui leur ressemblent, choisir des lieux différents, puis leur faire vivre des aventures.
OK. Alors donc, on va revenir aux enfants. Et donc, j'aimerais ça, moi, entendre, parce que vous êtes des auteurs, j'aimerais bien entendre ce que vous avez écrit. J'aimerais bien commencer avec Noémie. Tiens. Noémie, est-ce que tu veux nous lire ton histoire?
Oui.
On t'écoute.
Chloé et la danse.
Ouais.
Chloé se pratique dans les coulisses. Elle attend que le monsieur dise le nom de son groupe. Chloé est un peu stressée. Elle a peur de rater devant tout le monde. Chloé pratique son plié puisqu'elle ne le maîtrise pas très bien. Maintenant, elle pratique sa chorégraphie en groupe. Chloé entend le nom de son groupe. Elle dit « C'est à notre tour » et tous les épaules vont sur scène. Chloé n'a pas vu qu'il y avait une flaque d'eau par terre. Chloé s'approche de la flaque d'eau et glisse. Chloé
Ah,
a très mal.
oh non. Continue, ma belle.
Tous les étoiles vont aider Chloé à se relever. Chloé dit, c'est sûr qu'on va perdre à cause de moi. Les nettoyeurs s'excusent beaucoup d'avoir laissé une flaque d'eau sur la scène. Chloé s'est foulée la cheville. Chloé dit, c'est pas grave, mais j'ai quand même envie de faire encore du ballet. Ouais, une idée. Je vais vous conseiller pour notre reprise de compétition. Tous les autres sont d'accord. On commence. 1 et 2 et 3 et 4. C'était super. Allez, les étoiles, c'est à nous. Chloé dit, ça fait bizarre de ne pas aller sur la scène avec les autres. Chloé dit, je suis sûre que vous allez gagner. Quand les étoiles sortent de scène, Chloé les félicite. Chloé n'en croit pas ses yeux. La chef de l'équipe a le trophée dans les mains. Chloé dit, même si je ne suis pas là, vous avez assuré que Chloé prend ses béquilles et se lève avec difficulté, mais réussit à marcher avec ses béquilles. Chloé est très, très heureuse.
Et ça finit comme ça. Wow! C'est-tu une histoire qui t'est arrivée pour vrai, ça, Noémie?
Non, mais c'est une histoire qui m'est venue parce que moi, j'aime ça
T'aimes ça, la
danser.
danse? Wow! OK, merci! Zoé, qu'est-ce que tu as écrit, toi? On t'écoute, ma chouette.
Layla et ses amis jouent au soccer. Le ballon s'en vient vers elle. Elle s'apprête à sauter pour l'attraper. Elle est nerveuse. Ses jambes tremblent et ses mains tremblent aussi. Ses jambes glissent sur le... Boum! Et soudain, boum! Layla pleure et pleure. Elle a très, très mal. Tout le monde avait un sourire jusqu'à maintenant. Layla a mal, mal, mal. Elle pleure et pleure. Et une fille dit Oh my God! Et court vers elle. Elle s'est fait mal. La prof la voit, lève les bras et court vers elle. Elle la prend dans ses bras et l'emmène au secrétariat. Elle ouvre la porte et la secrétaire la voit. Elle la voit pleurer. Elle l'emmène au petit lit. Layla se repose et elle finit par se sentir mieux. Elle se repose encore et encore. Elle se sent encore plus mieux. Maintenant, elle est prête à ressortir. La secrétaire va la voir et lui dit « Tu te sens mieux maintenant ?» Layla dit « Oui » avec une voix douce. Alors, elle se lève et marche et bien sûr, elle a une glace. Elle va jouer avec ses amis et bien sûr, elle ne joue pas au secret.
Ben non, parce qu'elle est blessée, mais ça finit bien quand même. Alors, quelqu'un a pris soin d'elle. Merci, Zoé. Matt, est-ce qu'on peut écouter ce que tu as écrit, toi aussi? Il nous
Oui.
reste 3 minutes. Alors, on va faire ça. Je t'écoute. J'ai hâte.
L'accident de la balle. Léo est à l'école primaire. Le nom de son école est Laurie Dubois. Léo rêve de lancer la balle de tennis sur le toit de l'école. Alors, à chaque jour, il essaie de lancer la balle de tennis sur le toit. Mais il ne réussit jamais. Un jour, il joue à lancer la balle de tennis avec Gina, son amie. Léo commence à lancer la balle de tennis en même temps que Gina. Soudain, Léo lance la balle sur le toit. C'est la première fois de sa vie. Mais Léo a lancé sa balle tellement fort qu'elle rebondit du toit et puis, erreur, la balle que Léo a lancée sur le toit tombe à la vitesse d'une trombe et hop, la tête de Gina.
Oh.
Alors, dès que l'impact du choc frappe la tête de Gina, elle se met à pleurer. Une prof l'entend non loin de là. Alors la prof vient demander à Léo et Gina qu'est-ce qui s'est passé. Léo explique tout ce qui s'est passé. Alors la prof donne une glace à Gina. Gina se dit, je ne jouerai plus jamais à la balle. Fin.
Oh, ça finit comme ça. Gina veut plus jouer à la balle. Hey, c'est des histoires qui pourraient vous arriver. C'est vraiment intéressant. Merci, parce que vous êtes des auteurs intéressants à écouter. Julie, j'aimerais profiter de votre présence puis mentionner votre travail d'autrice, votre album Samedi matin, rue des Colibris, illustré par Olivier Chesnay, édité chez Deux, paraît ces jours-ci, justement. Qu'est-ce que ça raconte rapidement?
Rapidement, ben, c'est l'histoire de Simon et Lucas qui sillonnent les rues de leur quartier pendant une vente de garage parce qu'ils cherchent quelque chose de précieux, quelque chose de particulier.
Ouais.
Les lecteurs ne savent pas ce qu'ils cherchent. Et c'était mon intention que tout au long du livre, les enfants et les lecteurs se disent, mais qu'est-ce qu'ils cherchent? Et au moment où est-ce qu'ils trouvent enfin l'objet tant convoité, ben, j'espère que les enfants vont être surpris et même les adultes qui n'ont pas deviné qu'est-ce qu'il y en
Oui, ben moi, je fais partie des adultes qui l'avaient pas deviné. Je l'ai
avait.
lu, votre livre, puis c'est vraiment. En tout cas, c'est intéressant parce que ça vient toucher des belles valeurs, des valeurs de partage, d'empathie, d'entraide. C'est ça qu'on retrouve dans ce livre-là. Bravo, bravo à tous les quatre. Vous êtes des auteurs en devenir ou des auteurs stimulants. Je voudrais d'abord remercier Zoé, remercier Noémie, Matt. Remercier, d'abord, merci d'avoir pris le temps avec nous. Merci, Julie, pour la rigueur, pour la passion de la lecture et de l'écriture que vous insufflez aux petits. Et puis, vous créez dans votre classe une vraie communauté de lecteurs, de lectrices pour la vie. Merci et au revoir.
Merci.
Bye.
Merci.
Merci à vous. Salut.
Des tout petits livres.
Première aujourd'hui d'une toute nouvelle collaboration pour cette chronique Les tout petits livres. Bonjour Céline Ruffiange.
Bonjour Marie.
Je vous présente Céline rapidement. Vous êtes retraitée à temps plein maintenant de l'enseignement depuis un peu plus de 2 ans. Vous êtes orthopédagogue de formation. Vous avez aussi un certificat en littérature jeunesse. Vous avez travaillé principalement au préscolaire comme enseignante et enseignante ressource au centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île. Vous êtes bénévole lectrice à lire et faire lire et vous avez contribué à élaborer une sélection de livres pour lire et faire lire. Vous écrivez dans le magazine Lurelu depuis 27 ans et nous, on a la chance de bénéficier de vos conseils. Vous nous présentez aujourd'hui une chronique à propos des livres pour les plus petits. On vous écoute, chère Céline.
Alors, bonjour. Pour cette nouvelle chronique, aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter quatre œuvres qui sont tirées de la nouvelle sélection de Lire et faire lire. Cette sélection s'adresse principalement aux bénévoles lecteurs pour les guider dans leur choix de lecture, mais elle est pertinente pour toutes les personnes qui veulent lire à des jeunes, disons, entre 4 et 8 ans. C'est vraiment le public cible de Lire et faire lire.
Super.
Alors, je débute avec l'album d'Adèle. L'album d'Adèle, c'est le tout premier titre créé par Claude Ponty au moment de la naissance de sa petite fille, Adèle. Le livre a été publié en 1986 aux éditions Gallimard. C'est depuis un véritable classique. C'est un imagier sans texte. Sur la première double page, c'est un grand album à l'italienne. Sur la première double page, on voit la petite Adèle qui souffle des bulles de savon à l'intérieur desquelles se retrouvent des petits poussins jaunes qui deviendront vraiment comme l'emblème de Claude Ponty. Ces petits poussins vont le suivre dans toute son œuvre. Alors, au début, on voit des éléments qui sont sagement alignés, mais au fil des pages, ces éléments se multiplient, s'animent et envahissent l'espace dans une mise en scène complètement déjantée.
Ouais.
Ce livre, c'est vraiment l'album idéal pour s'initier à l'univers si particulier de Claude Ponty.
Oui, c'est un classique.
C'est sûr que les sans-textes, pardon?
C'est un classique.
Un classique. Les sans-textes, donc, on n'a pas ces jeux de mots, ces mots qu'il invente, mais c'est vraiment son univers graphique distinctif.
D'accord.
Le deuxième album, il s'agit de Pablo de Rascal. Pablo, c'est un œuf tout noir. Sur la page couverture, on voit l'œuf percé d'un seul trou. Au fil des pages, Pablo va découvrir le monde dont il ne veut perdre une seule miette ni une seule note. Alors, il fait un petit trou à la fois pour découvrir le monde jusqu'à ce qu'il se débarrasse presque entièrement de sa coquille.
Ouais.
C'est un album tout en noir et blanc, publié aux éditions Pastel.
Ouais.
Aux éditions 2, je vous présente Adélie.
Sur
la page couverture, on voit une fillette et un cochon tout rose, bien confortablement installés dans un grand fauteuil. Ils regardent un livre. Au début, on ignore qui est Adélie. Est-ce que c'est la petite fille ou le cochon?
Ouais.
On sait que tous les deux vivent à la campagne et que la nuit venue, le petit cochon sort de son enclos et pénètre dans la maison. On le voit déambuler dans la maison toute sombre, puisque c'est la nuit. On voit que la petite tache rose du petit cochon. Il se rend jusqu'à la bibliothèque où il s'empare d'un livre. C'est à ce moment-là qu'on découvre son prénom, Adélie.
Ah, c'est Adélie, donc, c'est le petit cochon.
C'est le petit cochon.
Ouais.
Et chaque nuit, il va lire des livres dans la maison jusqu'au soir où la petite Evelyne le surprend. C'est ainsi que va naître leur amitié autour de l'amour des livres.
Ah, c'est un beau livre hein, sur la
lecture,
oui. L'amour des livres aussi. Hein?
Vraiment.
Ouais, ouais.
Le dernier titre, il s'agit d'un tout carton sans texte de Cécile Gariepy, Coup de vent, publié aux éditions La Pastèque.
Ouais.
Alors, au début, on voit une femme qui marche tranquillement avec son chien. Puis, un coup de vent soulève sa jupe et son compagnon. Par la suite, les lettres du facteur sont emportées. Même les taches d'une vache s'envolent au vent. Différents éléments sont emportés par le vent. Et les personnages vont suivre ces éléments jusqu'à la dernière double page où on voit un grand arbre où tous les éléments se retrouvent et même le tronc de l'arbre se pare des taches de la vache.
Wow, c'est joli.
Oui, c'est vraiment un tout carton vraiment amusant, très expressif. avec le style aussi très distinctif de Cécile Gagné.
Et ce qui convient donc aux plus petits, parce que justement, à cause du tout carton, déjà, c'est un
Oui.
préalable qui plaît
Et du
beaucoup aux
sans.
jeunes.
Et du sans-texte qui favorise naturellement la lecture de l'image qui est si c'est important pour les
Pour les
petits.
petits, effectivement. Alors, Céline, vous avez tiré ces quatre titres-là de la liste, vous en avez parlé, la liste que vous avez contribué à créer pour les lecteurs bénévoles de Lire et faire lire.
Oui.
Vous aviez aussi pensé à quatre autres titres qu'on va mettre sur le site de l'émission. Peut-être, on peut juste dire les titres avant de se quitter.
Oui, il y a le Boîte à bonheur
Oui.
de
Tout à
Carnorac,
fait.
illustré par
Claude
voyons, Claude
Cadubois.
Cadubois.
Oui.
Il est tiré d'une série d'environ 12 albums qui mettent en vedette Lola, un charmant petit
Oui.
hamster.
Alors, les autres titres, je vais les nommer rapidement. Bonne nuit, petit gorille. Il y a Chute de Sally Greenlee et il y a l'incontournable La Grenouille qui avait une grande bouche qui
Oui,
est
un livre
vraiment.
animé.
Qui est un livre animé. Alors, je voudrais vous dire merci, Céline. On va mettre sur le site de l'émission les liens vers tous les titres que vous avez mentionnés et les autres, les quelques-uns de plus auxquels vous avez pensé. Je vous remercie beaucoup. Au plaisir d'une
Ben,
prochaine
c'est moi qui vous
rencontre.
remercie. C'est un plaisir pour moi. Au revoir,
Merci.
Marie.
Au revoir.
Je m'appelle Délina, j'ai 8 ans. J'aime beaucoup les livres de la série. J'aime lire parce qu'ils sont à la fois drôles et touchants.
Je m'appelle Myriam, j'ai 8 ans. J'aime lire les livres de la série Les Nombrils car c'est très drôle.
Je m'appelle Nélia, j'ai 8 ans. J'aime lire les livres de la série des Sisters.
Je m'appelle Zakaria, j'ai 8 ans. J'aime les romans car les pages ne se finissent pas toujours par un point et qu'on peut continuer des phrases par des pages.
On se quitte pour quelques minutes, le temps d'une courte pause. Au retour, je reçois Delphine Copé pour parler, entre autres, du programme intergénérationnel Lire et faire lire qu'on vient tout juste de mentionner avec Céline Rufiange. On écoute une nouvelle chronique littéraire, Raconte-moi une histoire, et bien sûr, il y aura des actualités littéraires. À tout de suite! Bienvenue en deuxième partie d'Imagémo à voix haute.
Annie les roses, j'ai 7 ans. J'ai beaucoup aimé Petit Geste parce que ça me fait ressentir des émotions, puis aussi ça me fait ressentir mon ami.
Dans les coulisses du livre.
Dans les coulisses du livre, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui font les livres jeunesse. Aujourd'hui, on rencontre quelqu'un qui est tombé dans la marmite de la littérature depuis très longtemps. Bonjour Delphine Copé.
Bonjour Marie.
Bienvenue à Imagine-moi à voix haute.
Merci pour l'invitation.
Oh, c'est un grand plaisir. Delphine, on va commencer par vous présenter aux auditeurs. Vous vous définissez vous-même comme une professionnelle spécialisée en littérature jeunesse, conférencière, animatrice et médiatrice. Vous êtes née, vous avez fait vos études en France. Vous obtenez en 1999 à Lille une maîtrise de lettres modernes, langue et littérature française. Et en 2001, à Paris, un brevet professionnel de libraire. Vous travaillez depuis plus de 20 ans dans le milieu québécois du livre. Entre 2003 et 2005, vous étiez responsable du marketing à la librairie Olivieri, qui est fermé maintenant. On
Quel
est
dommage,
triste,
oui.
oui. Vous avez été chargé de cours marketing et librairie en 2007-2008 à l'Université de Sherbrooke. Entre 2005 et 2022, vous avez occupé diverses fonctions chez Gallimard et vous vous spécialisez dans le livre jeunesse depuis 2016. En mai 2022, vous avez animé, ça c'est une grosse année hein, dans votre vie,
Oui,
2022.
tout à fait.
Oui, vous avez animé la 14e édition des Assises du livre jeunesse au Québec. En juin 2022, vous étiez chargée de projet à l'association Lire et faire lire, le programme intergénérationnel de lecture qui jumelle des enfants de 4 à 8 ans et des aînés de 50 ans et plus. On va en reparler tout à l'heure. En septembre 2022, vous étiez chargée de projet Lis-moi le Québec à l'association québécoise des Salons du Livre. Vous êtes membre du CA de communication jeunesse depuis 2022. Et donc, Delphine, vous gravitez dans le monde de la littérature jeunesse depuis bien longtemps, en France et ici. Et depuis quelques mois, vous occupez un poste en diffusion chez Diffusion Interforum. C'est un acteur clé de la chaîne du livre au Québec. Qu'est-ce que c'est exactement ce maillon dans la chaîne du livre?
Oui, alors c'est vrai que le maillon de la diffusion est un maillon assez peu connu du grand public, parce qu'on est vraiment dans les arcanes un peu de l'organisation de notre industrie. Je pense que les gens identifient bien les éditeurs et maintenant très bien les libraires aussi grâce au merveilleux travail de l'Association des libraires qui a été fait dans les 20-30 dernières années, etc., pour vraiment valoriser la profession. Et aujourd'hui, je pense qu'on est très attaché à nos libraires. La diffusion, c'est vraiment un maillon qui fait l'interface en fait entre les éditeurs et les libraires. Donc, on est encore dans de la médiation. Ça, c'est un mot que vous avez cité dans mon parcours et je pense que c'est l'intention clé que j'ai dans tout ce que je fais en contact avec le livre. C'est effectivement de transmettre, d'être une passeuse d'enthousiasme, de contenu, de rêve, etc. Et en ce qui concerne effectivement la diffusion strictement professionnellement, c'est vraiment de traduire en fait toutes les intentions des éditeurs que nous représentons sur le marché québécois, puisque pour Interforum Canada, on représente environ 250 éditeurs français du groupe Editis. Et l'idée, c'est vraiment effectivement de savoir quels livres et comment on va pouvoir les présenter aux libraires et les mettre et les faire découvrir aux lecteurs ici.
OK, c'est intéressant, c'est un lien donc.
C'est un lien, effectivement, et puis le lien pratique de notre activité, c'est le dernier lien qu'on connaît aussi mal de l'extérieur, qui est celui de la distribution, parce que nous, si on organise le discours, les opérations, etc., à la distribution, ils font vraiment ce qu'on appelle le paquet ficelle. Donc, c'est eux qui sont l'interface pratique de notre métier à nous, qui sommes beaucoup dans l'idée de parler, de transmettre et de communiquer. Et eux, ils font les paquets, ils les envoient, ils les reçoivent des éditeurs, ils les entreposent, et puis après, ils les envoient chez les clients. Et donc, notre distributeur, est là, ça s'appelle la Socadis, qui est le plus gros distributeur de livres en langue française au Québec.
Donc, vous avez besoin, dans le travail que vous faites, d'être au courant de la réalité française et de la réalité au Québec.
Oui.
Parce qu'il y a des différences. Qu'est-ce que vous voyez comme différence, en fait, entre la littérature jeunesse d'ici et celle d'ailleurs dans la francophonie?
Alors, c'est une question qui m'a été posée de manière assez formelle, comme vous le faites il y a quelques mois, par une passionnée de littérature qui est française, qui est venue, jeunesse, qui est venue ici passer quelques mois et découvrir un peu notre environnement ici. Et puis, je me souviens lui avoir dit, et c'est vrai, j'y ai repensé à plusieurs reprises, l'audace. Il y a quelque chose d'audacieux dans la littérature québécoise jeunesse. Qui n'a pas peur de effectivement d'empoigner peut-être des thèmes, des réalités qui peuvent être un petit peu sensibles, et puis d'en faire un peu le tour, de les dédramatiser, de les expliciter. Et puis il faut dire aussi que depuis 20 ans, j'ai vu à quel point le paysage en littérature jeunesse avait été complètement bouleversé ici au Québec et pour le mieux. Maintenant, il y a vraiment une édition foisonnante, créatrice, qui est reconnue à l'international, qui vend des droits partout. Mais je dirais que l'audace continue à caractériser l'édition jeunesse québécoise, puis vraiment de parler... de parler de nos réalités ici.
OK, c'est intéressant ce miroir-là, je trouve ça intéressant. Vous êtes active, Delphine, vous impliquez comme membre parent de conseils d'établissement, d'abord à l'école Antique et plus récemment à l'école secondaire Sophie. Donc, vous avez choisi l'école publique pour vos enfants. Pourquoi vous impliquez dans les conseils d'établissement et pourquoi avoir choisi l'école publique?
Je pense que c'est un engagement citoyen et le mot me revient parce qu'en relisant un peu la mission de lire et faire lire, etc., le fonctionnement pour être sûr de l'expliciter le mieux possible, ça part d'un engagement citoyen. Mmh. Et effectivement, avoir sa place comme citoyen, c'est le début de tout. De tout engagement possible. Donc pour moi, l'école publique, c'est un engagement dans sa communauté, c'est un engagement pour les générations qui viennent. Et quelque part, d'une manière très... que je ressens vraiment très intérieurement, mais pour moi, l'engagement en littérature, qui est quelque chose de que je ne m'explique pas, d'inné, de spontané, dans lequel je pourrais pas vivre, quelque part, cet engagement-là, dans ma communauté, est très relié à ça, quelque chose de viscéral, voilà, qui est une posture face au monde. Je veux être engagée, je veux participer au débat, je veux amener mes efforts, ma voix. Donc c'est ça, je le fais à l'école depuis que les enfants sont tout petits, depuis qu'ils sont rentrés à l'école. Je suis rentrée à l'école en même temps qu'eux une deuxième fois, d'une certaine manière, et je n'en sors pas pour mon plus gros bonheur, grand bonheur. Et aussi parce que, dans le fond, on n'a pas, en tant que parents, ce qui se passe à l'école, ce sont des mythes, hein, ce sont des histoires qu'ils nous racontent, qu'on se raconte. Donc j'avais envie, moi aussi, de me raconter ma propre histoire par rapport à ce que vivent mes enfants à l'école. Et puis l'école est tellement le reflet d'une société qu'il me semblait incontournable d'être active et présente à l'école.
C'est un excellent moyen d'en prendre soin.
Exactement.
D'être présent. Alors, vous l'avez évoqué, j'aimerais qu'on parle de l'association Lire et faire lire que vous avez accompagnée comme chargée de projet. En fait, pour faire une histoire courte, là, vous y étiez quand on s'était rencontrés au congrès de mots et de craie en mai dernier. Et c'est de là qu'est né ce projet d'entrevue d'aujourd'hui. Vous occupez donc un autre poste maintenant, mais on a convenu avec Isabelle Piché, qui est la directrice actuelle de Lire et faire lire, que vous feriez une formidable ambassadrice de l'association. Qu'est-ce que c'est la mission? C'est né où, ce mouvement-là? Quand? Comment?
Alors, je le disais un petit peu plus tôt, c'est un engagement citoyen, effectivement, qui est né il y a à peu près une vingtaine d'années en France. C'est des enseignants à la retraite, si je ne m'abuse, en Bretagne, donc dans l'Ouest, qui ont eu envie, en fait, de se fixer une double mission. Ouais. Parce que la mission de Lire et faire lire, effectivement, puis ça, je trouve que c'est crucial de dire qu'elle est double. Elle sert à susciter le plaisir de lire et à éveiller le plaisir de lire chez les enfants de 4 à 8 ans. Ici, pour le Québec, c'est 4 à 8 ans.
Ouais.
Et d'autre part, de favoriser aussi les relations intergénérationnelles, puisque ce sont des bénévoles de 50 ans et plus qui rencontrent en fait des enfants de 4 à 8 ans. Alexandre Jardin, rapidement, est devenu un porte-voix et un méga ambassadeur de Lire et faire lire. C'est vraiment lui la figure notoire d'écrivain, même si aujourd'hui, des centaines de créatrices d'ici, ici et là-bas soutiennent aussi l'association. Mais c'est ça, la mission, elle est vraiment double. C'est de faire jaillir l'étincelle, en fait, ni plus ni moins. Et c'est ce qu'il y a de plus difficile, de faire jaillir cette petite étincelle. Et c'est à la demande, effectivement, de Chantal Vaillancourt qui précédait Isabelle à la direction de Lire et faire lire. Et quand j'ai quitté Gallimard, m'a dit, on fête notre 20e, est-ce que ça te tenterait d'embarquer avec nous? Et d'une certaine manière, de continuer à faire de la médiation, mais cette fois pour une mission de cette OBNL.
D'accord. Dans sa chronique, Céline Ruffiange en a parlé tout à l'heure, on peut devenir bénévole lecteur ou lectrice pour lire et faire lire. On peut aussi démarrer une antenne locale ou tout simplement devenir membre. Comment ça fonctionne?
Alors, effectivement, en fait, l'enjeu de Lire et faire lire, qui est un travail colossal, c'est de coordonner un petit peu les enfants qui ont envie qu'on vienne raconter des histoires et ces bénévoles qui ont envie de donner du temps. Et c'est pas rien parce qu'on a un territoire quand même assez étalé et puis il faut créer des points d'ancrage. Alors, les points d'ancrage, ce sont les antennes locales. Il y en a à peu près une centaine. Elles sont réparties sur les 17 régions administratives du Québec.
Ouais.
Et puis, effectivement, donc ça peut être un centre d'action bénévole ou autre association. Ça peut être parfois même une bibliothèque. Mais c'est une personne à un endroit qui va coordonner, en fait, des bénévoles qui veulent s'impliquer avec des écoles ou des
garderies
qui voudraient recevoir, en fait, ces bénévoles-là.
Okay.
Donc, quand on est bénévole de 50 ans et plus, on se dit « j'ai du temps à donner dans ma région », on peut aller sur le site de Lire et faire lire, extrêmement bien fait. Je ne le dis pas de tous les sites internet, mais Lire et faire lire Québec, il est très clair. Il y a des petites vidéos pour vous montrer ce que c'est le programme en action. Et puis, on peut chercher un peu dans quelle région on est, où on se trouve, où se trouve notre antenne locale la plus proche.
D'accord. Donc, on va rappeler l'adresse du site www.lire-et-faire-lire-tout-ensemble.qc.ca et on peut y voir les noms, les photos des parrains, des marraines oui. de l'organisme. On en nomme quelques-uns, Alexandre Jardin, évidemment, parce que c'est lui qui est le porte-parole au départ, Dany Laferrière, Claudia Larochelle, Kim Thuy et il y en a d'autres. On voit aussi que Lire et faire lire sur le site est associé à On a tous besoin d'histoire et on peut y entendre son manifeste en version audio, produit à vue et voix d'ailleurs. Et donc, il y a différents types de soutien dont les bénévoles lecteurs peuvent bénéficier.
Oui, alors il y a d'abord une sélection. Et en fait, c'est extrêmement important parce que moi, j'ai pu constater à quel point les bénévoles sont très enthousiaste et curieux. Ça, c'est vraiment... c'est des qualités qui sont intrinsèques aux bénévoles lecteurs. Mais ils n'ont pas forcément une connaissance de la littérature. Puis surtout, de ce qu'ils pourraient mettre entre les mains des enfants, c'est comment ça va se faire le lien. Donc, il y a vraiment, il y a vraiment plusieurs professionnels qui visent à revoir cette sélection, à la mettre à jour pour qu'elle contienne... Ceci dit, elle contient du roman, de la bande dessinée, du documentaire. C'est ouvert à tous les genres littéraires. L'idée, c'est que ces livres-là soient conviennent à l'âge des enfants auxquels on s'adresse. Et puis surtout, puis ça c'est vraiment important, ne soit pas sur des thèmes beaucoup trop peut-être lourds ou graves, etc., qui pourraient être du ressort de l'enseignant, de les faire découvrir avec les enfants. Mais là, on se rappelle toujours qu'on est dans une notion de plaisir, de moments vraiment de liberté et de folie partagée. Et ce qu'on disait pas aussi, c'est comment ça s'organise sur le terrain. C'est une heure passée entre soi, entre bénévoles et petits groupes de 4 à 5 enfants pendant 8 semaines. Donc, c'est un rendez-vous pendant 8 semaines pendant l'année scolaire d'affilée. Ouais. Ils viennent à l'école rencontrer leur petit groupe. Un très beau rendez-vous dans un petit coin de l'école et ils partagent une heure comme ça autour du livre.
Formidable.
Il faut voir les yeux des enfants quand les bénévoles
arrivent. Elle est là l'étincelle.
Elle est là l'étincelle.
Autant dans les yeux des personnes, des adultes que dans ceux des enfants.
Exactement.
On revient à votre parcours dans le milieu du livre, c'est impressionnant. Je vous cite ici, « Depuis mon diplôme de libraire obtenu il y a plus de 20 ans jusqu'à aujourd'hui, j'ai multiplié les rencontres et les collaborations dans le milieu du livre avec tous les acteurs, les actrices de la chaîne en ce qui concerne la littérature jeunesse. » Est-ce que vous vous souvenez d'une rencontre ou de quelques-unes, mais commençons par une en particulier qui vous a marqué?
Alors, c'est drôle parce que j'ai relu, effectivement, je me suis un peu remémorée par rapport aux questions, plein de choses sur mon parcours. Je pense que j'ai fait du déni sur cette question-là parce qu'il y en a eu trop des rencontres pour n'en choisir qu'une. Je dirais que les rencontres définitivement qui m'ont le plus marqué sont des rencontres avec les créateurs, que ce soit des illustrateurs ou des auteurs ou des autrices. C'est vraiment d'être au contact de la création qui me fait vibrer. Et si je parle d'un créateur d'ici, ce serait Stéphane Poulin, assurément, parce que c'est un maître.
Ouais.
Et si je devais citer une écrivaine française, je parlerais de Marion Muraille. Par exemple, c'est des rencontres qui m'ont beaucoup ébranlée, qui m'ont beaucoup fait cheminer et où je me suis sentie au plus proche de leur étincelle à eux de création.
Ah oui, ça c'est intéressant. Puis c'est l'avantage que vous avez d'être dans ce milieu-là et de pouvoir bénéficier de ça.
Oui, ben on fait de la médiation, mais soi-même on est nourri.
Oui.
On essaie de nourrir les autres, mais en premier lieu on est soi-même nourri après pour pouvoir transmettre tout ça.
Oui. Delphine, c'est la tradition à Images et mots. On demande aux invités de nous proposer un de leurs coups de cœur littéraire jeunesse. En terminant, est-ce que vous avez une suggestion pour nous?
Alors, bon, autant j'ai eu du mal à choisir peut-être une rencontre, j'aurais pu avoir aussi du mal à choisir un coup de cœur, mais on sait toujours qu'on est en train de tomber amoureux d'un livre au moment où on se parle. Alors, j'ai choisi le livre duquel j'étais en train de tomber amoureuse.
Ouais.
Il s'agit... et puis, en fait, je trouvais qu'elle réunissait, elle faisait le lien entre tout ce dans quoi j'ai été investie et impliquée. Il s'agit, en fait, de la mise en image et en illustration de L'œil du loup de Daniel Pénac par Mathieu Sapin. Paru chez Nathan, qui paraît ces jours-ci chez Nathan Bande Dessinée. Alors pourquoi ça répondait à tous mes critères d'engouement? Parce que Mathieu Sapin, c'est un créateur que j'aime beaucoup, qui a fait beaucoup de choses chez Gallimard avec Marguerite Abouette. L'œil du loup est un texte fondateur de Daniel Pénac, un texte très simple qui écrit en 84, donc qui n'est pas tout jeune, mais terriblement contemporain, qui parle de migration, de rencontres, de sensibilisation au monde animal, de la fiction aussi, du pouvoir des histoires. Donc pour moi, c'est vraiment un texte fondateur.
On va mettre tous les liens sur le site de l'émission pour que les gens puissent aller retrouver ça. Je vous remercie, Delphine Copé, pour cette rencontre.
Avec grand plaisir.
Merci pour votre professionnalisme, pour le rayonnement que vous permettez aux auteurs et aux autrices, aux illustrateurs, illustratrices, pour les rencontres que vous provoquez entre eux et les lecteurs, petits et grands.
Merci, Marie. Merci.
Je m'appelle Coralie, j'ai 6 ans, j'aime beaucoup ça lire parce que ça me donne des émotions puis j'aime ça apprendre.
Raconte-moi une histoire!
On écoute maintenant une des chroniques littéraires de On a tous besoin d'histoire. Avec Mathilde Routier, on vous fait découvrir l'album Contes culottés de Caroline Barber et Hello, publié aux 400 coups, un livre qui convient tout à fait aux plus petits. On écoute.
Raconte-moi une histoire. La chronique littérature jeunesse de On a tous besoin d'histoire.
Voici un livre cartonné au titre amusant, qui va nous permettre d'évoquer la littérature pour les tout-petits, à l'âge où on entre dans les histoires par les oreilles, puisque ce sont les grands qui nous les lisent. Alors c'est bon d'avoir des textes rythmés et poétiques qui ressemblent à des comptines.
C'est exactement ce que nous offrent les contes culottés de Caroline Barber, illustrés par Hello et publiés aux 400 coups. Mais ce livre joue en plus beaucoup sur l'illustration. Et comme on le sait aussi, les tout-petits, s'ils sont bercés par les mots, les phrases qu'on lit, adorent découvrir les images.
Et ne l'oublions pas, c'est tout un travail de lire les images. Un travail qui met en route la pensée de l'enfant. Et justement, cet album amusant et intelligent met l'enfant en contact avec des personnages de contes. Bien sûr, il ne s'agit pas à cet âge de lire des contes traditionnels, mais plutôt de les approcher en jouant sur les personnages ou les objets qui les caractérisent.
Et on sent que Caroline Barber s'est beaucoup amusée avec cet élément. Mais sa grande astuce, c'est qu'elle imagine et propose une petite devinette autour de quelque chose qu'ont en commun tous les personnages. Devine quoi, Marie?
Leur petite culotte.
En poil de grand méchant loup pour le chaperon rouge.
Un pagne en paille pour les trois petits cochons.
Une bobette à paillettes pour la petite sirène.
Un short aux poches pleines de cailloux pour pousser, etc. Et à chaque devinette, un texte amusant.
Tu connais mon capuchon couleur fraise des bois? Mais mon vêtement le plus mignon, ce n'est pas celui-là. Mon préféré, mon chéri, mon chouchou... Il est en poil de grand méchant loup.
J'ouvre le rabat et qui apparaît? Le petit chaperon rouge vêtu d'une culotte en poil de loup avec un loup caché derrière le buisson qui la regarde.
Donc sur la page de gauche, vous trouverez toujours un texte en rime et la devinette du conte.
Sur la page de droite, la culotte en question avec le rabat qui permet de découvrir le personnage du conte.
Les illustrations d'Hello sont dans la complicité du texte, c'est-à-dire drôle et malicieuse. Ses couleurs apportent aussi beaucoup de dynamisme et varient à chaque page. Il ajoute des petits détails, ça et là, qui dynamisent le tout.
Mais il y a encore un plus. Eh oui, rythmant la découverte de toutes ces petites culottes, caleçons, boxeurs ou bobettes à travers les contes, on voit le loup intervenir chaque jour de la semaine sur une page au fond rouge, rappelant ainsi qu'il est la star des histoires, le plus costaud, le plus gourmand, le plus malin. Comment ne pas penser aux histoires de Mario Ramos? Et devinez quoi? Du lundi au samedi, il met un slip différent.
Quant au dimanche, Méfiez-vous du grand méchant loup.
Oui, on s'est bien amusé à lire cet album particulièrement réussi par son rythme de lecture, les surprises de chaque rabat et la façon rigolote de partir à la découverte des contes traditionnels.
Rappelons le titre de notre découverte, Contes culottés de Caroline Barber, illustré par Hello aux éditions Les 400 coups.
Sur le site de l'émission, vous retrouverez les liens vers le titre mentionné, la page Facebook de On a tous besoin d'histoire, celui qui vous permet de réentendre toutes les chroniques littéraires Raconte-moi une histoire, ainsi que celui vers le blog de Marie Barguerdian, Ars Tram Gram.
Bonjour, je m'appelle Sarah, je suis 8 ans. J'apparais plonge parce qu'elle est comme moi. Après, au début, il était peur et après, il a réussi.
Les actuels littéraires.
Encore des idées de lecture et de sorties littéraires. Pour tous les liens, c'est sur le site de l'émission. Dimanche prochain, le 3 décembre, à Marie raconte, je lis Prudence, la petite pie qui perd ses plumes, de Véronique Allary et Gabrielle Lisa Collard, illustrée par Catherine Petit des éditions Québec-Amérique. Prudence a peur de tout et elle perd ses plumes quand elle a peur. Et l'une de ses ailes est brisée depuis qu'elle est toute petite. Mais malgré tout, Prudence est persévérante, déterminée et bien entourée de sa sœur cadette. Un album lumineux qui célèbre le courage et la résilience des petits malades et de ceux qui les accompagnent, tout en douceur et en légèreté. On en écoute un extrait. Un matin, tandis que Promesse dort toujours, Prudence attrape le journal déposé au pied de leur pain. Pendant qu'elle l'époussette du bout de l'aile pour en retirer les aiguilles, ses yeux endormis se posent sur le grand titre. La comète Paulina passera dans le ciel cette nuit. Plus bas sur la page, elle lit qu'on pourra apercevoir l'astre du haut de la grande montagne et qu'il sera accompagné d'une pluie de poussière d'étoiles roses. Prise d'une irrépressible envie de partir à l'aventure, Prudence n'entend plus que l'appel du firmament. Portée par son enthousiasme, elle décide de partir seule, de peur que le périple soit trop périlleux pour Promesse, encore petite. Félicitations aux deux lauréats des prix littéraires du gouverneur général 2023. Dans la catégorie Livre jeunesse texte, L'inoubliable de Lou Beauchesne. Et c'est édité par La Courte Échelle. C'est un roman bouleversant sous forme de lettres écrites par Mimi à sa petite sœur Linou, qu'elle n'a pas connue. Un texte bouleversant, lumineux. Et dans la catégorie Livre jeunesse illustré, Le plus petit sauveur du monde de Samuel Larochelle. Les illustrations sont de Eve Patnaud et l'éditeur, c'est XYZ. Un livre magnifiquement illustré d'une grande sensibilité. Il évoque les grands questionnements qu'amène la crise climatique chez les enfants comme chez les adultes. Félicitations également au lauréat 2023 du prix TD de littérature pour l'enfance et la jeunesse, l'auteur Paul Thom et l'illustratrice Mélanie Baillarger pour Seul, récit documentaire paru à La Courte Échelle qui traite des enfants demandeurs d'asile arrivés au Canada sans leurs parents. Les finalistes du prix des libraires ont été annoncés le 14 novembre dernier à la librairie N'était-ce pas l'été. Les comités de sélection ont retenu 24 livres, 3 dans chacune des 8 catégories. Bande dessinée, 0-5 ans, 6-11 ans et 12-17 ans, autant au Québec que hors Québec. Le lien pour voir tous ces titres est sur notre site. Il y aura donc 8 lauréats qui seront couronnés en février prochain suite à un vote électronique de l'ensemble des libraires de la province. Le même jour avait lieu la remise du prix Jeunesse 2023 des Bibliothèques de Montréal. Le prix est allé à titre posthume à François Blais pour son roman « Le garçon aux pieds à l'envers ». Félicitations d'ailleurs à tous les finalistes. quelques activités en librairie. Samedi 2 décembre de 10h30 à 11h30 ont lieu les pyjamas contes de Noël à la librairie Le Port de Tête au 222 rue Mont-Royal à Montréal. Il y a deux activités à la librairie moderne au 10-20 boulevard du Séminaire Nord à Saint-Jean-sur-Richelieu. Dimanche 3 décembre, les heures tendues sont à confirmer. Il y a une rencontre avec l'auteur Jean-François Laliberté et les illustrateurs Sacha Lefebvre et Mathieu Benoît. Et samedi 9 décembre, de 10h à midi, il y a une rencontre avec Marie-Hélène Cyr, autrice de la série Objectif Mars pour les 10-14 ans et de la série Science spatiale pour les 6-10 ans. Pour info, le numéro de téléphone est le suivant, le 450-349-4583. Quelques suggestions de livres qui viennent de sortir avec une touche de Noël en terminant. Le Noël de Casse-Noisette de Roxane Turcotte. Les illustrations sont de Sabrina Gendron. C'est paru chez Ozu en octobre. Il y a aussi Touctou et Grand Loup de Roxane Turcotte. Les illustrations sont de Laura Giraud. C'est paru au 400 coups en octobre et ce sera ma première lecture de Noël à Marie Raconte le 17 décembre. Il y a aussi Lily Rose, le plus beau cadeau du monde de Guédeline Desrosiers. Les illustrations sont de Mélissa Mathieu. C'est un album auto-édité et on recevra d'ailleurs l'autrice et entrepreneur en mars prochain. Notez que je vous mentionnerai davantage de nouvelles parutions de livres pour Noël à la prochaine émission et à l'autre qui vient. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je remercie les invités et les collaborateurs d'aujourd'hui, Julie Bouchard et ses élèves de deuxième année, Zoé Deschamps, Noémie Lecomte et Matt Robitaille, Céline Ruffiange pour sa chronique Les tout-petits livres, Delphine Copé, professionnelle spécialisée en littérature jeunesse, Mathilde et Marie pour leur chronique Raconte-moi une histoire, Michel Brûlé pour le soutien à la recherche, Mathieu Tessier en régie au montage et à la mise en onde, et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Je vous souhaite des lectures captivantes et on se retrouve, je le souhaite, dans deux semaines.